Castorama, l'histoire d'un jour, aujourd'hui le 22 avril 1961, le putsch d'Alger. Le 20 avril, à 16h, en montant à bord du transport de troupes Nord 2501, le général d'armée Maurice Schall, ex-commandant en chef des troupes en Algérie, franchit le Rubicon. Il est désormais un clandestin, bientôt un rebelle. Originaire des montagnes de Provence, c'est un homme froid qui n'est pas coutumier des coups de tête. Il réagit à l'expression « Algérie algérienne » prononcée par Charles de Gaulle le 4 novembre 1960. Quelques mois plus tôt, Maurice Schall rejoint Georges Bidault, Jacques Soustel, Marc Loriol, député d'Alger, les généraux André Zeller et Jean-Étienne Valuy, qui s'interrogent sur le devenir de l'Algérie. Il rencontre à l'école militaire des officiers supérieurs, dont le colonel Antoine Argout et le capitaine Pierre Sergent, anciens du 1er régiment étranger de parachutistes. Ils sont convaincus de l'urgence d'une révolution et surtout de la nécessité d'éliminer le président de la République, qui est à leurs yeux la cause des maux de l'Algérie. Ils sont persuadés que l'armée est mûre pour s'emparer du pouvoir. Le vendredi 21 avril 1961, à 9h, l'état-major putschiste est réuni à Alger. Sont présents le général Gardy, ancien inspecteur de la Légion étrangère, André Zeller, préposé aux questions administratives, le général Edmond Jouot, le pied noir chargé des contacts avec la population et quelques officiers, dont le colonel Yves Godard, ancien chef de la Sûreté d'Alger, et le commandant Élie Denois de Saint-Marc, patron par intérim du 1er régiment étranger de parachutistes, qui sera le fer de lance du putsch. Maurice Schall fixe leur hache à 2h dans la nuit du 21 au 22 avril. Une heure plus tard, tous les objectifs sont atteints. Alger est prise. Dans la ville endormie, le pouvoir a changé de main. À l'aube, c'est la plus parfaite surprise. Les Algérois entendent la voix du général Schall annoncer « Je suis à Alger avec les généraux Zeller et Jouot en liaison avec le général Salon pour tenir notre serment, le serment de l'armée, de garder l'Algérie pour que nos morts ne soient pas morts pour rien. » La première désillusion vient de Constantine, où le général Marie-Michel Gouraud hésite. Or, il contrôle la région du territoire algérien la plus tardivement pacifiée, celle où se trouve le plus de troupes d'élite. Finalement, il adopte une prudente position attentiste. En Kabylie, le général Jean Simon se démarque également. Au soir du 23 avril, Charles de Gaulle s'exprime. Il condamne sans appel les auteurs de la tentative de coup d'État. Un quarteron de généraux en retraite, un groupe d'officiers partisans, ambitieux et fanatiques. Ensuite, il délie les militaires de leur devoir d'obéissance envers leur chef, si ceux-ci suivent les généraux rebelles. J'interdis à tout Français et d'abord à tout soldat d'exécuter aucun de leurs ordres. L'allocution présidentielle porte, Maurice Schall s'en aperçoit vite, en Algérie la situation se dégrade, à Oran le général Henri de Pouilly refuse de s'engager aux côtés des putschistes. Il est arrêté sur l'ordre du général Zeller. L'aviation est opposée au coup de force. La marine adopte une attitude semblable. Beaucoup de jeunes du contingent se démarquent des officiers factieux. Le 25 avril à 16 heures, Maurice Schall rassemble les chefs de corps restés fidèles. L'atmosphère est tendue. Il déclare avec gravité « Messieurs, rentrez dans vos garnisons avec vos unités. L'affaire est finie. Nous avons échoué. Il faut maintenant en tirer les conséquences. Je ne vous laisserai pas payer tout seul, rassurez-vous, ce n'est pas mon genre. » Après l'intervention de Jean-Jacques Susini, le petit maître à penser de la future organisation armée secrète, l'OAS, Maurice Schall rejoint le peuple d'Alger. À 18h45, il arrive au siège du gouvernement général pour signer l'ultime pièce du putsch, une déclaration à la population annonçant la mobilisation de 8 classes de pieds noirs et conseillant à tout le monde de prendre les armes pour sauver l'Algérie française. Mais cet appel reste sans réponse. Ensuite, il exprime à Raoul Salan son désir de se livrer. À 23 heures, André Zeller revêt les vêtements civils, puis après avoir salué ses camarades, se perd dans la foule. À minuit, Maurice Schall éteint les lumières pour que les Algérois massés sur le forum se dispersent. À 1h du matin, accompagné d'Edmond Jouot et de Raoul Salan, il évacue le bâtiment du gouvernement général et monte dans un camion militaire pour gagner la base de Zeralda. Là, il prend congé de Salan et Jouot. Pour eux, s'ouvre la perspective d'une vie clandestine, une nouvelle aventure tragique, celle de l'organisation armée secrète. Maurice Schall et Élie Denois de Saint-Marc se retrouvent seuls. À 9h, une Citroën anonyme conduite par un adjudant de gendarmerie quitte Zeralda. À l'arrière sont assis en civil Schall et un lieutenant-colonel de l'état-major. Cette fois, le putsch est bien fini. Il a duré 4 jours et 5 nuits. L'armée d'Algérie en sort à jamais brisée. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama et c'est Serge Lama qui nous accompagne en chanson. Nous écoutons D'aventure en aventure.
Bien sûr, j'ai d'autres certitudes, j'ai d'autres habitudes. Et d'autres que toi sont venus les lèvres tendres, les mains nues, bien sûr. Bien sûr, j'ai murmuré leur nom, j'ai caressé leur front et j'ai partagé leur frisson. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, je n'ai pu fermer ma blessure. Je t'aime encore, bien sûr, du soir au matin blême, depuis j'ai dit je t'aime. Et d'autres que toi sont venus marquer leurs dents sur ma peau nue, bien sûr. Bien sûr, pour trouver le repos, j'ai caressé leur peau. Elles m'ont même trouvé beau. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, je n'ai pu fermer ma blessure. Je t'aime encore, bien sûr, j'ai joué de mes armes, j'ai joué de leurs larmes. Entre le bonsoir et l'adieu, souvent pour rien, souvent par jeu, bien sûr. Bien sûr, j'ai redit à mi-voix tous les mots que pour toi j'ai dit pour la première fois. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, je n'ai pu fermer ma blessure. Je t'aime encore, mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai plus oublié ton corps. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, je n'ai plus fermé ma blessure parce que je t'aime. Je t'aime encore, je t'aime encore, je t'aime encore.
Nous retrouvons Historama pour la chronique littéraire. Un jour, trois livres. Aujourd'hui, un seul livre. Mais quel livre ? Roy Cohn, L'avocat du diable de Philippe Corbet. C'est publié aux éditions Grasset. Journaliste à RTL, Philippe Corbet signe ici une remarquable biographie du maître à penser de Donald Trump. L'avocat Roy Cohn, l'une des figures marquantes de la vie new-yorkaise des années 1960-70, décédé du sida le 2 août 1986. Fils d'un magistrat et d'une mère fortunée, il voit le jour dans le Bronx en 1927. C'est un enfant chétif de petite taille qui hérite de la laideur repoussante de sa mère. Il est précoce. À 13 ans, il tient la rubrique des potins mondains du journal Bronx Home News. Par la volonté maternelle, la famille s'installe bientôt à Manhattan, dans le quartier chic de l'Upper East Side. Roy Cohn est profondément marqué par l'emprisonnement de son oncle Bernie Marcus, au lendemain de la faillite de la banque familiale. Il est persuadé qu'il s'agit là d'une manigance antisémite. Aussi, il n'aura de cesse d'occulter sa judaïté. Il suit des études juridiques à l'Université de Columbia et devient avocat. Il témoigne d'un anticommunisme ardent. Aux prémices de la guerre froide, il se vante d'avoir envoyé Ethel Rosenberg à la chaise électrique. Avocat en chef de la commission McCarthy à 26 ans, il entretient une amitié singulière et, disons-le, ambiguë avec David Chine. Cette relation précipite la chute du sénateur pourfendeur des gauchistes aux États-Unis. Roy Cohn déteste Robert Kennedy. En juin 1960, lors de la convention démocrate de Los Angeles, il tente en vain d'empêcher la désignation de son frère au profit de Lyndon Johnson. Avocat de la mafia, il a également comme client Rupert Murdoch et Donald Trump, qu'il conseille 13 années durant. Il lui prédit un brillant avenir politique et lui livre les ficelles du métier. Lors de l'élection présidentielle de 1980, il compte parmi les précieux soutiens de Ronald Reagan. Il contribue à lui assurer l'État de New York. Homosexuel caché, il est photographié par Robert Mapplethorpe. Il mène une intense vie sociale. Il donne de grandioses réceptions où se presse la haute société américaine dans une ambiance volontiers décadente. Roy Cohn est un menteur pathologique. Il est accusé de malhonnêteté, fraude, tromperie et fausses déclarations. Pour tromper l'administration fiscale, Il acquiert l'ensemble de ses biens au nom de son cabinet d'avocat. Ses malversations lui vaut sa radiation du barreau de New York quelques semaines seulement avant son décès. Le soleil cesse ainsi de briller pour Roy Cohn. Roy Cohn, l'avocat du diable, c'est signé Philippe Corbet, c'est publié aux éditions Grasset, c'est un ouvrage tout à fait admirable et je le recommande très vivement à l'ensemble de nos auditeurs. Ainsi s'achève cette émission Historama, merci à Lucas qui l'a réalisée et nous nous séparons en chanson avec toujours Serge Lama, nous écoutons Chez moi, un titre qui fait partie de ce répertoire parfois confidentiel mais toujours remarquable de Serge Lama. Je vous retrouverai la semaine prochaine pour de nouvelles aventures historiques.
Viens, laisse un peu tomber tes poupées. À ton âge, il faut s'en aller. Je sais que tes parents sont très gentils, mais eux, à ton âge, ils étaient partis. Viens, je ne suis pas encore très vieux. J'ai la passion au fond des yeux et j'ai besoin d'un cœur tendre à aimer. Oh oui, j'ai besoin de te protéger. J'ai tellement d'amour à te donner. Chez moi, il y a des canapés où je bercerai toutes tes poupées. Chez moi, je t'installerai le marché. Viens, laisse un peu tomber tes poupées. Laisse tes livres et tes cahiers. La vie, tu sais, ça s'apprend au dehors. D'ailleurs, je sais que quelquefois, tu sors. Viens, j'ai peur que ton cœur prenne froid. J'ai peur qu'un jeune maladroit te fasse mal sans le vouloir vraiment. Méfie-toi des jeunes amants qui ont le cœur coupant comme un diamant. Chez moi, les tigres sont morts. Y a un chat qui dort, un chien pas méchant. Chez moi, tu auras le choix entre aimer un chez moi pour tes insomnies, même en pleine nuit, je ferai grand jour. Chez moi, il y a des berceaux blancs où tous nos enfants s'endorment déjà. Chez moi.
Thank you.